soir, des parlementaires de l'opposition et de la majorité présidentielle ont déposé lundi dernier à la Cour constitutionnelle une requête en inconstitutionnalité de la loi électorale. Selon eux, la loi électorale promulguée le 24 décembre dernier par le chef de l'État viole certaines dispositions de la Constitution. Ils indexent les dispositions fixant les seuils de représentativité au niveau national pour les candidats députés et la caution jugée exorbitante. Comment analyser cette démarche? C'est la question du débat et nous en parlons avec Mwindo Nzangi, le député national de l'opposition. Il est cadre du MSR, parti membre du G7 et du Rassemblement. Bonsoir, honorable Mwindo Nzangi.
Bonsoir, Jouté Rokapi. Bonsoir à toi, Guimaté.
Maître Tassis Matadiwamba, député national de la majorité présidentielle et président du parti travailliste libéral. Il est aussi bâtonnier national. Bonsoir, Maître Tassis Matadiwamba.
Bonsoir.
Et professeur Bobo Kabamba, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur Bobo Kabamba. Voilà, apparemment, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Des députés nationaux et sénateurs ont déposé lundi dernier à la Cour constitutionnelle une requête en inconstitutionnalité de la loi électorale promulguée le 24 décembre dernier par le chef de l'État. Les principales dispositions qui fâchent les plaignants portent sur le seuil de représentativité au niveau national pour les candidats indépendants et la caution jugée trop exorbitante. Outre les parlementaires de l'opposition, Thomas Lokondo de la majorité présidentielle s'est associé à cette démarche qu'ils ont qualifiée de citoyenne. Un reportage d'Ebili Ivan Lutumba.
Les plaignants s'appuient sur l'article 162 de la Constitution amenant cette action. Article qui garantit le droit à toute personne de saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Toussaint Ekombe Mpeti, député national élu de Bouéndé, illustre ici la violation de la Constitution par l'actuelle loi électorale.
Par exemple, à Idiofa, vous êtes seul. Le seuil de représentativité suppose l'addition de voix obtenues par un parti politique, un regroupement politique ou même cet indépendant à travers toutes les circonscriptions de la République. Or, lui, l'indépendant n'est candidat qu'à Idiofa. Comment va-t-il faire pour obtenir des voix dans d'autres circonscriptions? Là, vous l'excluez de la compétition. Et quand vous l'excluez de la compétition, vous violez l'article 101 de la Constitution.
De son côté, c'est lui qui, depuis l'hémicycle, s'était farouchement opposé à la dite loi et comme s'était-il engagé, quoi qu'étant de la majorité présidentielle, a en effet poursuivi son combat au niveau de la justice. Henri Thomas Lokondo.
Il s'agit d'autres dispositions sur la caution qui est exorbitante. Ce cautionnement électoral exorbitant élimine les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens.
Notons qu'un indépendamment des parlementaires, Odette Babandoa, présidente du parti Union des Patriotes Républicains, a déposé en son nom une requête similaire à la Cour constitutionnelle. Elle argumente pour sa part que l'actuelle loi électorale ne favorise nullement la parité, en ce sens que la femme congolaise qui ne vit que de son salaire de fonctionnaire ou de son petit commerce ne pourra jamais réunir la caution pour poser sa candidature.
Merci à vous, Billy Ivan Lutumba. En réaction à cette démarche, le député national de l'opposition, Christophe Lutundula, affirme qu'après le dépôt de cette requête, il appartient aux magistrats de la Cour d'assumer leurs responsabilités et de dire les droits en toute indépendance. Il est une fois de plus au micro de Billy Ivan Lutumba.
Nous sommes sûrs que s'il est dit en toute indépendance, l'affaire de l'article 101 avec les seuils aura une décision juste, équitable. Et enfin, ce n'est pas un problème seulement des indépendants, c'est un problème de principe. Les sénateurs et les députés, nous sommes législateurs. Nous ne pouvons pas transiger sur le respect de la Constitution et des lois de la République. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'on dit défendre les indépendants. Non, nous défendons la Constitution de la République. Et c'est un devoir qui est même prévu dans la Constitution. Il faut qu'on dissipe tout équivoque. Ce n'est pas un problème d'intérêt catégoriel, c'est d'abord un problème de respect d'une constitution adoptée à 85% par les Congolais.
Mwindo Nzangi, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition, vous êtes cadre du MSR, parti membre du G7 et du Rassemblement. Vous vous saisissez la Cour constitutionnelle par une requête en inconstitutionnalité de la loi électorale. Pourquoi c'est seulement maintenant que vous saisissez la Haute Cour alors que la loi a été adoptée depuis le 15 décembre 2017? Pourquoi la démarche n'est pas intervenue avant?
D'abord, il faut dire que nous sommes dans une logique que nous défendons depuis le début de cette saga de la loi électorale qui a été déposée à l'Assemblée nationale dans les conditions que les Congolais connaissent. Et je voudrais dire ici d'abord que le moment est propice pour cette action-là. Vous savez que le président de la République a eu le temps de pouvoir le faire conformément à l'article 160 de la Constitution, puisque nous on croyait qu'à ce niveau, vu les problèmes qui posaient cette loi, notamment le problème de violation de la Constitution, il pouvait, conformément à la Constitution, lui-même saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse se prononcer sur ces dispositions-là. D'autant plus que ces dispositions ont fait l'objet de débats au niveau de l'Assemblée nationale et que ce texte a été adopté par une seule partie des parlementaires, notamment les députés nationaux de la majorité de l'Assemblée nationale. Puisqu'il faut rappeler que même au Sénat, cette disposition-là, ces dispositions qui font problème n'ont pas été retenues.
Et donc vous espériez que le chef de l'État allait saisir la Cour constitutionnelle à son niveau.
À son niveau, mais, il ne l'a pas fait. Et nous sommes fondés par l'article 62 de la Constitution de pouvoir le faire.
Ok, lui il ne l'a pas fait. Et là, vous vous permettez d'attaquer une loi déjà promulguée par le chef de l'État. Vous ne pensez pas que la démarche est beaucoup plus compliquée quand vous l'amenez maintenant que la loi a été promulguée, que si la démarche avait été initiée avant que la loi ne soit promulguée par le chef de l'État?
Non. La démarche ce n'est pas à retard, puisque si la Cour constitutionnelle trouve effectivement, comme elle va le faire, on le sait bien, que ces dispositions violent la Constitution, effectivement, ces dispositions ne seront pas d'application. Il faut les rappeler et de la manière la plus juste possible. Nous n'attaquons pas toute la loi, nous attaquons certaines dispositions de la loi.
Et il y a la disposition
qui concerne les seuils. Vous savez, telle qu'elle a été rédigée, telle qu'elle a été adoptée, cette disposition viole l'article 101 de la Constitution, d'autant plus qu'elle exclut toute possibilité à un indépendant de pouvoir être élu. Alors que la Constitution reconnaît qu'un indépendant peut être élu. Cette disposition va trop loin, en demandant même, en obligeant aux indépendants de pouvoir se regrouper. Alors que indépendant veut dire quelqu'un qui veut effectivement garder son indépendance vis-à-vis des groupes au sein des partis politiques ou des regroupements politiques. Mais cette loi ici vient l'obliger à pouvoir se regrouper avec les autres. Sinon, il ne peut pas être élu. Comment pouvez-vous, si aujourd'hui nous nous basons sur les calculs, notamment des électeurs qui sont attendus sur les tenues de la République? On nous parle de 45 millions d'électeurs. Si vous calculez le seuil de 1%, dans la logique où ces 45 millions se seraient fait élire, vous avez 450 000 électeurs que chaque parti politique doit avoir sur toute l'étendue de la République. Mais ici, la loi, l'article 118, oblige l'indépendant qui a postulé même dans une circonscription de 40 000 électeurs, puisqu'il y en a. Une circonscription de 100 000 électeurs. On l'oblige, lui aussi, à remplir la condition d'atteindre 450 000 voix pour être élu. C'est absurde.
Mais vous semblez insister beaucoup plus sur les indépendants, alors que même les petits partis politiques sont préjudiciés par cette loi.
Nous insistons parce que c'est là la flagrance même que cette loi viole la Constitution. Puisque la Constitution permet à toute personne de pouvoir se constituer en indépendant et d'être élu comme indépendant. Donc, cette loi, cette disposition de seuil vient à principe, elle vient annuler la possibilité pour tout indépendant d'être élu. Et ça viole la Constitution.
Alors, lorsque vous évoquez la question du seuil, pourtant la majorité a soutenu que c'est pour réduire les nombres pléthoriques des partis politiques fantaisistes. Cela veut dire que vous êtes pour les nombres exorbitants des partis politiques au Congo?
Non, je crois que ce n'était que faux fuyard. Ils ont fait ça, et puis après, ils viennent justifier cela. C'est comme ce qu'ils disent aujourd'hui. Alors qu'ils ont dit que c'est le seuil qui allait réduire le nombre de candidats et le nombre de partis politiques, aujourd'hui, ils nous amènent la machine à voter. Qui n'est pas prévu dans la loi? Aucune disposition de la loi électorale ne prévoit l'usage des bulletins électroniques. Lisez bien la loi, vous allez trouver que partout on dit que les bulletins manuels, c'est des bulletins imprimés. Ils nous amènent et ils disent voilà, tout ça aussi c'est pour réduire le nombre de candidats et de partis politiques. Je crois que c'est des arguments qui sont utilisés pour organiser la fraude. Et nous, on ne peut pas accepter.
Et vous dites que comme la caution, vous dites que la caution est exorbitante. Honorable, est-ce qu'on peut recevoir des candidatures sans poser des conditions, même si on proposait une caution de $200? C'est toujours beaucoup pour beaucoup de Congolais.
Si vous lisez l'exposé des motifs de cette loi, ils rehaussent la caution pour le simple objectif de pouvoir empêcher à certaines catégories de Congolais d'être candidats. Ça viole l'article 13 de la Constitution. L'article 13 de la Constitution dit que personne ne peut être empêché d'accéder aux fonctions publiques à cause de sa condition sociale. C'est pas puisque moi, enseignant, je suis payé $100 par mois que je ne peux pas être candidat député. Lorsqu'on m'exclut par la loi de devenir député parce que je n'ai pas d'argent, ça, c'est la violation de la Constitution.
Et quel est le niveau de la caution que vous proposez?
Voilà le niveau. Est-ce que vous pouvez imaginer l'augmentation de la caution est de 540%. Alors qu'on demandait à une liste 500 000 francs congolais, on demande à chaque individu, aujourd'hui, on demande à chaque individu 1 500 000 francs congolais.
Environ 1 000 dollars.
Environ 1 000 dollars. C'est pas acceptable. Qu'est-ce qui justifierait que l'on quitte de 500 pour une liste de 10 personnes ou de 8 personnes pour arriver à 1 000 dollars par candidat? C'est la motivation, c'est pour exclure une certaine partie. Hein? On dit une certaine catégorie de Congolais puisqu'ils viennent remplir les listes. Et je crois que ce n'est pas acceptable qu'on dise seulement que ceux qui ont volé l'argent de l'État...
Vous proposez quel niveau de la caution?
Il n'y a que ceux qui ont... Maintenant, là, on ne peut plus revenir sur ça. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle et nous savons que la Cour constitutionnelle va balayer cet article-là, puisque c'est un article de texte modifié, et qu'on va revenir sur la sienne caution, puisque cette caution-là ne pose aucun problème aux Congolais.
Merci, Maître Tarsis Matadiouamba. Je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du parti travailliste libéral. Vous êtes aussi bâtonnier national. Comment vous réagissez à cette démarche de certains parlementaires?
La démarche est constitutionnelle, elle est républicaine, elle est bonne. Maintenant, j'ai entendu mes collègues députés Ekombe et Lutundula. Je viens d'entendre le collègue Nzang qui est à mes côtés. Je voudrais dire d'abord que les indépendants, les candidats indépendants ne sont pas exclus de la compétition. Absolument pas.
Mais lorsque vous demandez à un candidat indépendant de réunir 450 000 voix pour être déclaré élu, vous ne pensez pas que vous les excluez?
Je ne l'exclus pas. C'est peut-être une difficulté énorme pour l'indépendant, mais c'est l'indépendant qui aura choisi cette position. Il n'est pas exclu. Du fait du seuil, il n'est pas exclu. Mais d'atteindre le seuil, c'est difficile pour lui, pour ne pas dire impossible. Mais il n'est pas exclu. Il faut admettre cette évidence. C'est difficile, mais il n'est pas exclu. Alors, en fait, s'agissant des indépendants, moi je l'ai dit dans la salle, et le collègue Lokondo m'avait cité, à juste titre, le problème pour les indépendants est ailleurs. C'est que l'indépendant est autorisé à faire campagne dans une circonscription. Dans une circonscription et pas à travers tous les pays. Là, ça pose problème. Tandis qu'un parti politique créé pour conquérir le pouvoir, il est censé s'étendre partout.
Il est censé avoir une assise nationale.
Voilà, censé avoir une assise nationale. S'il ne l'a pas, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Où est la violation de la loi? Où est la violation de la Constitution? S'agissant des partis politiques, mais laissez-moi réagir, n'est-ce pas? Bon, mais pour les indépendants, je concède, je l'avais concédé dans la salle par la voix du collègue Lokondo avec lequel on avait discuté en dehors de la salle, mais qui m'a cité. Ça, il y a un problème. Et j'espère que la Cour constitutionnelle dira comment résoudre ce problème-là.
Et donc, l'honorable Matadi Wamba souhaiterait aussi, comme certains de ses collègues, que la Cour constitutionnelle puisse élaguer cette disposition sur les seuils de 1% sur le plan national.
Je ne souhaite pas. Le problème est soumis à la Cour constitutionnelle, que je ne suis pas. C'est à elle à gérer cette affaire-là des indépendants. Non autorisés par la loi à faire campagne en dehors de la circonscription. C'est ça le problème. Le problème est à ce niveau-là. Ils ne sont pas autorisés à faire campagne à travers tous les pays. Ils doivent faire tout pour avoir les voix dans la circonscription.
Alors, mais pourquoi les législateurs ont cautionné cette incohérence?
On ne peut pas toujours être cohérent. On peut, peut-être que ce n'est pas venu à la tête. Mais personnellement, je suis convaincu de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on a violé la Constitution. Ça ne veut pas dire. Mais est-ce qu'il est impossible?
Vous ne violez pas la Constitution, mais vous mettez l'indépendant, les candidats indépendants dans une posture difficile.
Mais il est dans une position difficile, mais qui l'a choisi?
Il est libre de choisir sa
position. Il est libre de choisir sa position. Et il n'est pas impossible de réunir le seuil dans une circonscription. Il est très difficile. Voilà. Le problème est celui-là. Alors, maintenant je passe au collègue qui est à mes côtés, le collègue Nzangi. Quand il dit le chef de l'État aurait dû saisir la Cour constitutionnelle, il n'est pas obligé. S'il a trouvé que la loi ne viole pas la Constitution, il n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle. Pas besoin, ni obligé, il n'est pas obligé. Bon, alors le collègue vient de dire que la loi a été votée par les seuls députés de la majorité présidentielle. C'est pas exact. Il y avait dans la salle certains députés de l'opposition. J'étais présent. Alors, la loi ne serait votée que par les députés de la seule majorité présidentielle. J'ai dit, si c'était le cas, ça ne serait pas pour autant inconstitutionnel.
Voilà.
Je continue à lui répondre. Alors maintenant, cette loi votée dans ces conditions-là, est-ce que elle exclut quelqu'un? Est-ce que ça empêchera des gens d'être élus? Et à qui profite la loi? Qu'on le dise, à qui? Telle qu'elle est là, à qui profite-t-elle? À la majorité actuelle?
C'est parce que la majorité l'a soutenue.
Non, oui, mais
donc elle profitera à la majorité.
Votre raisonnement n'est pas correct. Quand vous dites que parce que la majorité a soutenu et voté la loi, donc elle profitera à la majorité, qu'est-ce qui vous autorise?
Vous pensez que la majorité va soutenir un texte de loi qui ne lui est pas favorable?
Mais écoutez, mais qu'est-ce qui vous autorise de douter de ça? Qu'est-ce qui vous autorise de dire que parce que la majorité a voté la loi, elle lui est favorable?
Maître Matadi Wamba, évoquons la question de la caution, des 100 000 dollars pour le candidat président de la République et des 1 000 dollars pour chaque candidat député national, qui est jugé exorbitante par vos collègues qui ont saisi la Cour constitutionnelle.
Oui.
N'ont-ils pas raison?
Il y a eu le problème, la machine a voté. Heureusement que le collègue Nzagi a reconnu que ça n'a rien à voir avec la loi. Alors pourquoi en parler? On n'a rien à voir avec la loi.
C'est retenu, hein. La machine à voter sera utilisée, n'est-ce pas?
Ça n'a absolument rien à voir avec
la loi. Parlons de la caution.
Alors, la caution, y a-t-il une balance pour peser la caution? Est-ce qu'il y a une balance? Les députés donnent des chiffres divers, dans tous les sens.
Et donc,
faut prendre?
Vous cherchez à mettre en place une classe politique des barons, des personnes qui ont beaucoup de moyens?
Que faut-il?
Vous ne donnez pas la chance aux enseignants, aux gagne-petits?
Que faut-il prendre? Je vous dis que c'est des chiffres qui pleuvent dans la salle. Le collègue Nzang a donné un chiffre, moi j'ai donné un chiffre, d'autres députés ont donné un chiffre. Lequel prendre? Quel est le bon? Je vous dis qu'il n'y a pas de balance. Merci. On a arrêté ce chiffre-là, on l'a arrêté. Merci, c'est la loi dure, et il faut la prendre telle.
Merci, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Bonsoir, professeur. Allô, professeur Bob Kabamba. Apparemment, il n'est pas encore là. Et honorable Mwindo Nzangi, il y a une réflexion qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouji Kassama depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les parlementaires passent leur temps inutilement au lieu de préparer leur base aux échéances électorales qui se pointent à l'horizon, car cette démarche n'aboutira à rien face à une cour constitutionnelle inféodée au pouvoir en place. Je pense qu'ils devraient mener leur combat à l'interne, donc au niveau de l'Assemblée nationale, avant que ce projet de loi soit passé. Et aujourd'hui, la loi a été promulguée par le chef de l'État et leur démarche reste comme un chien qui aboie et la caravane passe.
Oui, honorable Mouindou Nzangi.
Oui, moi je crois qu'il a raison de ne pas avoir confiance aux institutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, tout le monde croit que saisir la Cour constitutionnelle, c'est perdre du temps. Je crois qu'il faut qu'on corrige ça. Et les juges de la Cour constitutionnelle, je crois qu'ils sont en train de les suivre. Et il ne faut pas que la population puisse avoir l'impression que saisir la Cour constitutionnelle, c'est perdre du temps. Nous, on croit encore que la Cour constitutionnelle peut faire quelque chose. Et nous croyons que, par exemple, pour la question des seuils, je crois que mon co-débatteur, l'honorable, a lui-même reconnu qu'il se pose un problème des indépendants, un problème de cohérence, et moi j'ajoute, un problème constitutionnel, parce que demander à quelqu'un qui ne postule que dans une circonscription de remplir un seuil national, c'est avouer qu'il ne peut pas être élu. Mais alors, on ne peut pas se dire que, bon, c'est son problème, il a choisi d'être indépendant. Non, la Constitution reconnaît que lui peut être candidat indépendant dans sa circonscription, pas au niveau national. Je crois que, à l'Élysée de cette manière-là, je connais bien les bâtonniers a voulu seulement dire que, voilà, c'est anticonstitutionnel. Et je crois que nous sommes tous d'accord avec ça, puisque lui-même reconnaît que ça pose quand même un problème. Alors je voudrais dire
par rapport à la question
je voudrais revenir à la question qui a été posée. Je crois que nous députés de l'opposition aujourd'hui avec certains députés de la majorité qui ont signé avec nous cette requête, nous croyons que nous ne pouvons pas ne pas rester logiques envers nous-mêmes. Nous avons soulevé à l'Assemblée nationale que cette question-là des seuils posait un problème de constitutionnalité. On ne nous a pas suivis. Alors, comme nous sommes encore les institutions, la démarche la plus louable pour nous, c'est pas de prendre les armes contre la République, c'est d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Et nous l'avons fait, je crois que nous avons bien fait. Alors, si la Cour constitutionnelle ne va pas faire son travail comme il le faut, nous au moins, nous aurons fait notre travail dans le respect des institutions de la République. Alors, je reviens au niveau de la caution.
Se pose la question, les bâtonniers Matadiwamba, sur base de quelles données on va calculer la caution?
C'est des chiffres hasardiers? Non! Non! On ne peut pas dire qu'on a affaire à des chiffres hasardiers lorsque nous sommes dans un pays qui a déjà connu deux élections successives. Nous avons une caution qui a été exigée au candidat à 2006. Cette caution corrigée à 2011. Mais on ne peut pas accepter une proportion de correction de l'ordre de 540%. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous avons comme paramètre qui pourrait nous obliger, nous aujourd'hui, de pouvoir justifier une augmentation de 540% du seuil? C'est quoi? Nous avons amélioré les salaires déjà? Le contraire. Les gens qui avaient un salaire relatif de 100 dollars, aujourd'hui ils sont en train de les toucher ce salaire là au taux de 93 qui n'est plus que 60 dollars américains. Donc au lieu que leur pouvoir d'achat augmente, il a diminué. Mais nous à l'Assemblée nationale, on se dit, puisque nous sommes devenus députés, puisque nous avons déjà eu de l'argent, puisque nous servons une majorité qui a déjà volé beaucoup d'argent, et ils vont avoir certainement la caution, et nous voulons exclure les autres. C'est pas correct, ce n'est même pas logique. Voici la substance de cette réforme-là. On oblige aux partis politiques d'avoir un seuil national. Pour que les partis puissent avoir un seuil national, il doit plus ou moins avoir des candidats sur toute l'étendue de la République. Et au même moment, à gauche, on dit, pour avoir, chaque candidat doit avoir 1 000 dollars. on exclut la possibilité pour les partis politiques de pouvoir présenter des candidats partout, puisque ils savent qu'ils se sont déjà bien servis au niveau du pouvoir, ils vont avoir des candidats partout. Les autres partis politiques, l'opposition notamment, qui n'ont pas d'argent, ne vont pas avoir des candidats partout. Ils n'auront pas les seuils et automatiquement, ils seront rejetés. C'est la substance. Cette loi a été taillée sur mesure. Nous avons suivi les audios d'une réunion du PPRD. La démarche, c'est de pouvoir, par la loi, obtenir une majorité, puisqu'on a peur de l'obtenir par les urnes.
Merci. On me signale que le professeur Bob Kabamba est là. Bonsoir, professeur Bob Kabamba.
Oui, bonsoir.
Oui, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Vous avez suivi, je crois que vous avez suivi les débuts de l'émission. Certains parlementaires saisissent la Cour constitutionnelle par une requête en inconstitutionnalité de la loi électorale. Comment vous analysez cette démarche?
Oui. C'est un droit pour les parlementaires de pouvoir faire des revendications lorsque les choses ne vont pas aller dans le sens qu'ils espèrent. C'est-à-dire que lorsque l'on n'est pas content par rapport à ce qui est pris, il y a des mécanismes qui sont prévus par la Constitution qui permet effectivement à certaines personnes de pouvoir critiquer, même revendiquer ce qui n'a pas été obtenu par le vote. Et ce qu'il faut noter, c'est que leur argumentation, de ce que j'ai pu comprendre, de la discrimination vis-à-vis des candidats indépendants, ce qui semble être vraiment le cas. La constitution de la RDC a consolidé effectivement trois pôles de représentation. Il y a le candidat indépendant, le parti politique ou le mouvement. Et sur un même pied d'égalité, et ils concourent au même niveau que tous les autres. C'est-à-dire ici, de manière claire, la loi électorale, de mon point de vue, viole ce principe d'équité par rapport à la procédure qui est mise en place pour la représentativité. On analyse clairement le candidat indépendant qui ne pourra pas arriver à obtenir le seuil de 1% tel qu'il est prévu par le fédéral pour pouvoir espérer bénéficier donc de ce statut. Et donc clairement, il n'y aura aucun candidat indépendant qui pourra prétendre siéger au Parlement congolais. Et d'autre part aussi, il faut se rendre compte que cette loi va créer vraiment une espèce de difficulté et de chaos au niveau des résultats. Et pour bien comprendre cette question-là, c'est-à-dire, vous pouvez imaginer dans une circonscription électorale où vous avez un candidat ou un parti politique qui fait 80% de voix, et parce que le parti à 80% de voix dans une circonscription électorale n'a pas obtenu le seuil de 1% de l'ensemble du territoire, ce que des fois dans une circonscription ne sera pas élu. Celui qui pourrait être élu pourrait avoir dans les 2% quelqu'un qui aura 2-3% qui va être élu à la place de celui qui avait 80%, ce qui pourrait créer une espèce de tension, voire même un conflit entre d'une part la question de la représentativité. Encore une autre chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que en proposant ce seuil de 1%, je pense que les gens n'ont pas bien calculé, n'ont pas bien compris ce que ça voulait représenter. La majorité présidentielle, du point de vue, surtout le PPRD, avec ce système, risquerait, conditionnel, de disparaître de l'espace politique congolais. C'est que lorsque l'on a fait en 1906, le PPRD est le premier parti, et un parti qui représentait donc le pouvoir. 2011, et il va de soi que lors des prochaines élections, ce parti sera encore une fois en recul. Il sera en recul pourquoi? Parce que c'est ce parti qui va assumer les résultats et qui va assumer le bilan de la gouvernance, des deux mandats de gouvernance en RDC. Et comme nous tous nous le savons, le bilan n'est pas très positif en matière sécuritaire, en matière économique, en matière sociale, en matière de santé, etc. Et ce bilan-là va être assumé par le PPRD, donc je vois mal comment les gens vont pouvoir aller voter pour le PPRD. Ce qu'ils vont faire, c'est peut-être pour aller dans d'autres pôles. Et en allant dans d'autres pôles, on va arriver à émettre encore une fois l'électorat, et en émettant l'électorat, on va émettre l'électorat de la majorité, et là, beaucoup de partis qui ne seront pas le PPRD vont prendre des voix au PPRD, et risquent que tous ces partis n'atteignent pas 1% de la représentation, et de ce fait, c'est tout de suite éliminé. Et ça, c'est un risque, je n'ai pas bien compris pourquoi c'est pas fait, Et ensuite, si je prends le cas de plusieurs petits partis qui existent au niveau de la majorité et qui, je vois mal, c'est pas réintégrer la dynamique de PPRD. Je pense, par exemple, au parti politique de Thius Mabilou qui a été PPRD avant et qui a créé son propre parti. Cette nouvelle loi ne va pas lui permettre de pouvoir représenter,
professeur,
de pouvoir pouvoir espérer. Oui, allô?
Oui, vous avez relevé les cas des indépendants. Ou, j'espère que vous avez suivi Maître Matadi Wamba, qui, n'est-ce pas, a rappelé, n'est-ce pas, que la loi n'autorise pas les candidats indépendants à battre campagne sur toute l'étendue de la République. Mais cette nouvelle loi demande à ces mêmes candidats indépendants de pouvoir avoir des voix à travers tous les pays. Et alors comment vous expliquez, vous en tant que politologue, vous expliquez cette sorte d'incohérence cautionnée par les parlementaires?
Oui, je pense que les choses ont été un peu trop vite, sans que les parlementaires aient eu le temps, à mon avis, de pouvoir bien poser le problème, d'analyser le contexte politique, d'analyser surtout les résultats des différentes élections, des différentes élections qu'on a eues, et la justification, de mon point de vue, est basée sur une logique et sur une argumentation qui est fausse. Le PPRD a été sauvé en 2011 parce qu'il y avait les mosaïques. On a créé les mosaïques pour pouvoir permettre à ce que des voix qui n'iront pas au PPRD puissent aller à d'autres partis politiques contrôlés par le PPRD. Et de ce fait, a permis effectivement le PPRD de sortir légalement avec 66 sièges, mais lorsqu'on calculait tous les mosaïques, on arrivait à plus de 160, voire 180 députés au Parlement. Et c'est ce système qui a permis effectivement à la majorité de pouvoir se consolider. Et maintenant, s'ils veulent mettre fin à ce système, c'est-à-dire ils vont, de manière très claire, affaiblir le PPRD, puisque la force du PPRD vient des mosaïques. Et si les mosaïques, on essaye de les marginaliser, de faire en sorte qu'ils ne pèsent pas, eh ben, ces mosaïques vont se coaliser. Ils vont se coaliser et vont prendre des pouvoirs au PPRD.
Merci.
Et le PPRD risque de ne pas avoir le 1% des représentations. Et donc, je pense que la question est fondamentale.
Merci, c'est-à-dire professeur,
qu'il n'a pas été, de mon point de vue, suffisamment juriste, sur la proposition qui a été adoptée.
Merci, professeur. Maître Matadi Wamba, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Lubumbashi.
Victor Olame Mouvanga, je réside à Lubumbashi. Par rapport à la requête déposée par les députés dont certains sont de la majorité, d'autres de l'opposition, moi je pense qu'ils ont bien raison de déposer la dite requête, même si nous savons tous qu'il leur sera difficile, voire même impossible d'obtenir tant de causes. Néanmoins, cet esprit de dénonciation et de revendication, que moi je soutiens toujours, dont font preuve ces honorables députés, devrait être salué par le plus grand nombre des Congolais, dans la mesure où les dispositions visant le seuil de représentativité constituent d'une certaine façon un apartheid idéologique et intellectuel et une violation flagrante de la liberté de pensée et d'opinion.
Oui, Maître Matadi Wamba.
Oui, notre ami dit que c'est là une sorte d'apartheid idéologique. Non, il n'y a pas d'apartheid idéologique. C'est une loi qui pose des conditions, même pas des conditions d'éligibilité, mais des conditions d'attribution des sièges. Ici, ce ne sont pas les conditions d'éligibilité qui posent problème, mais c'est les conditions d'attribution de sièges.
Mais il y a aussi des conditions d'éligibilité.
Non,
lorsque vous n'avez pas atteint les seuils,
indiquez
le fait que vous avez 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 voix. Vous n'avez pas atteint les seuils, vous n'êtes pas déclaré éligible.
Ce n'est pas une condition d'éligibilité au sens traditionnel du terme, hein, n'est-ce pas? Il suffit de lire l'article 118. Vous voulez bien me le donner, mon collègue, n'est-ce pas? Le 118 qui pose problème dit ceci: les députés sont élus au suffrage direct pour un mandat de dans les circonscriptions, dans les conditions suivantes. dans les conditions. Et alors, on indique les conditions.
Là, il s'agit de la loi électorale révisée.
Bien sûr. Alors, et d'ailleurs, tout n'est pas lié, toute élection n'est pas liée au seuil de 1% à travers tous les pays, n'est-ce pas? Je vois ici, par exemple, au texte sur le même article 118, il est attribué un siège au candidat ayant obtenu la moitié des suffrages valablement exprimés dans la circonscription. Si vous avez déjà la moitié de voix exprimées dans la circonscription, vous avez un siège. Et dans les circonscriptions où il n'y a qu'un siège, il y a plusieurs circonscriptions. Là, on ne fait même pas référence au seuil national, etc., etc., n'est-ce pas? Dans la loi continue, aux quatre dans les circonscriptions comptant deux sièges ou plus, etc. Donc, il y a des exceptions qui sont nombreuses. L'attribution des sièges sans qu'il ait fait référence au seuil national. Et alors, qu'est-ce qui va au seuil national? C'est le reste de sièges à pourvoir. Ce sont ces sièges-là qui seront attribués par rapport au seuil de 1% à travers le pays. Alors, permettez-moi de dire ce que je viens de noter du professeur Kabamba, n'est-ce pas? Ce que lui, à propos du seuil, il parle d'équité, de manque d'équité. Je l'ai noté, il parle de difficulté. Il n'a pas dit anticonstitutionnel. Il y a un problème d'équité, il y a un problème de difficulté, mais est-ce que de là on doit conclure à l'inconstitutionnalité? La Cour constitutionnelle nous le dira. Mais j'ai noté cet universitaire, n'est-ce pas? Pour le reste, je reviens un peu à ceci parce que le collègue Nzangi a beaucoup insisté là-dessus. Mais la consignation, $1,000. Est-ce qu'il est bon, la question est celle-là, est-ce qu'il est bon ou pas de limiter le nombre de candidats à une élection? N'est-ce pas? Est-ce qu'une des difficultés de la CENI, ce n'est pas la multitude des candidatures pour faire, n'est-ce pas, comment ça s'appelle
Les bulletins de vote.
Les bulletins de vote. Est-ce qu'il est bon ou pas de limiter les candidatures?
Et déjà, vous avez la machine voter qui résout ce problème-là.
La machine à voter n'a rien à voir avec la loi. Je m'excuse beaucoup, le collègue Nzang m'approuve. Elle n'a même pas m'approuvé, puisqu'on le figure, la loi ne le dit pas. N'est-ce pas? Donc, il est
pourtant,
bon.
Pourtant, elle est en train d'être commandée par la CENI, et le premier lot est arrivé.
Je ne sais pas pourquoi. Si vous... Bon, il est bon, il est judicieux de limiter le nombre de candidatures. Mais il ne faut pas dire que c'est inconstitutionnel.
Ok. Hein? Professeur Bob, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient d'Isiro.
La démarche des parlementaires de l'opposition et de la majorité présidentielle est légale. Mais vu le contexte que traverse notre pays, il est difficile que les parlementaires puissent trouver une réponse favorable à leurs requêtes. D'autant plus que nous assistons à une forte influence des politiques qui domine notre justice. Notre justice n'est pas indépendante, notre justice devient de plus en plus politique. Le cas récent est celui de la décision de la Cour réhabiliter le gouvernement de Haut-Katanga et refusé par la politique. À mon avis, pour que la Cour constitutionnelle tranche à toute indépendance, il faut que le juge soit à l'étranger pour ne pas risquer leur vie.
Professeur Bob Kabamba.
Donc, de manière nécessaire, il apparaît clairement que la au niveau de la justice va être prépondérante dans le cadre du contentieux électoral. Il y aura beaucoup de contestations et la justice va pouvoir être, on peut l'espérer, l'élément régulateur de tensions et de chaos qui s'annoncent. Pour ça, il est impératif que cette justice soit renforcée à différents niveaux, donc c'est-à-dire augmentant le renforcement de capacité, donner un moyen à cette justice de pouvoir rendre fidèlement ce qui va être rendu. Mais il y a beaucoup de craintes que cette justice, malheureusement, serait d'être fort instrumentalisée dans le contexte politique, surtout dans le contexte d'un contentieux électoral.
Oui, en d'autres termes, l'auditeur voudrait aussi dire si la Cour constitutionnelle pourrait se permettre de déclarer non conforme à la Constitution une loi déjà promulguée par la chef de l'État.
Oui, vous avez dit que c'est vrai, il va annuler les dispositions. La Cour statue et suit les argumentaires des uns et des autres. Là, on va annuler certaines dispositions et le Parlement va se ressaisir du dossier pour pouvoir corriger et se conformer par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle.
Est-ce qu'il y a déjà il y a eu un précédent, n'est-ce pas, dans l'histoire institutionnelle de la RDC, une loi déjà promulguée par le chef de l'État et qui est jugée non conforme par la haute Cour? Est-ce qu'il y a déjà un précédent dans l'histoire institutionnelle?
Il y a eu des règlements de droit intérieur qui ont été jugés non conformes par rapport à la Constitution. Plusieurs règlements de droit intérieur ont été soumis à la Cour constitutionnelle et qui ont été jugés non conformes, mais qui n'étaient pas promulgués par... Ici, on ne parle pas d'une nouvelle loi, parce qu'il s'agit d'une modification donc de la loi. Et comme c'est une modification de la loi, il va de soi que lorsqu'on peut ramener, saisir la Cour constitutionnelle, et malheureusement, heureusement, si il arrivait que cette Cour, dans l'histoire constitutionnelle, je n'ai pas connaissance d'une loi qui aurait déjà été jugée non conforme à la Constitution après la promulgation par le chef de l'État. Il y a des règlements intérieurs qui sont soumis à la Cour constitutionnelle, mais ça c'était avant la promulgation, et qui ont été déclarés non conformes à la Constitution.
Et que répondez-vous à Maître Matediwamba qui a dit, qu'il vous a suivi, vous évoquez au sujet du seuil des difficultés, mais vous n'évoquez pas, vous ne dites pas qu'il y a un problème d'anticonstitutionnalité. Comment vous répondez à Maître Matediwamba?
De manière claire, parce que l'UNICEF vient lire l'esprit de la Constitution. On a prévu, la Constitution a vraiment prévu trois possibilités, trois prétendants, indépendants, partis politiques et regroupements politiques. Et dans cette logique, c'était pour permettre à chacun de pouvoir être sur le même pied d'égalité, non seulement au niveau de la campagne de l'éligibilité sur la Constitution, et aussi sur la possibilité de pouvoir avoir à pouvoir être élu sans nécessairement être au niveau des partis politiques ou au niveau du regroupement politique. Et donc le candidat indépendant est au même niveau que les partis politiques, que les regroupements politiques. Mais avec le seuil, c'est qu'on rend l'indépendant quasi dans l'impossibilité de pouvoir représenter l'électorat tel que la Constitution lui permet.
Oui, professeur, nous sommes à la fin de l'émission. Comment vous concluez? Quelle est votre conclusion?
Je peux espérer que la Cour va suivre un peu l'argument de pouvoir enlever la représentation de seuil de 1%, mais aussi, parce que je n'ai pas abordé la question des cautions, qui est quand même assez incroyable, donc j'essaie de faire les calculs. Donc pour être candidat à un parti politique sérieux, doit dépenser plus ou moins $1,500,000 pour pouvoir représenter des candidats au niveau national et au niveau provincial. Ce qui me semble vraiment énorme en termes de logique démocratique telle que ça a été conçu par la Constitution.
Merci, honorable Mouindo Nzangi. En conclusion, si la Haute Cour rejette cette requête, c'est quoi le plan B de vous, parlementaires, vous qui avez saisi cette Haute Cour?
Je crois avoir parlé du plan B. Je voudrais résumer, dire seulement que je constate que Maître aussi reconnaît que la machine à voter n'est pas dans la loi. Et nous continuons à dire à la CENI que vous ne pouvez pas commander des machines lorsque la loi ne vous permet pas de faire des machines. Il ne faut pas que la CENI nous donne l'impression qu'elle est un instrument de voler les élections.
C'est
ça, va perturber le pays. Non, je crois que le plan B est connu. Le peuple sait ce qu'il doit faire lorsqu'il a affaire à des institutions qui ne respectent pas la loi et la Constitution.
Maître Matadiwamba, c'est quoi la chance de cette démarche menée par vos collègues parlementaires?
Je l'ai dit tout au début, c'est une démarche républicaine.
Est-ce qu'elle a la chance d'aboutir?
Qui est à sa place.
Est-ce qu'elle a la chance d'aboutir?
Est-ce qu'elle a la chance d'aboutir? J'ai lu la requête. La Cour constitutionnelle nous le dira. En tout cas, elle aura du travail, n'est-ce pas? Mais on doit cesser de manipuler les faibles.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique. Merci à Alain Irung et Dona Madimba sous la supervision de Pélé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.